il veut vraiment que le système électronique soit utilisé et utilisé sans problème cette fois. Alors, par exemple, en août, il y avait des rumeurs qu'il y avait, par exemple, des problèmes dans les régions rurales où les gens ont envoyé les résultats par SMS au lieu d'utiliser le système électronique. Mais c'est... Oui. Ces choses que M. Odinga il veut, c'est très peu probable que la plupart vont être acceptées parce que c'est la commission électorale qui choisit.
Caroline, ces dernières hostilités de Raila Odinga ont-elles ravivé les tensions sur le terrain?
Oui, alors la situation a été très tendue en août et c'est toujours très tendu aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur que cette élection ne va passer de la même manière, qu'il va y avoir des manifestations encore une fois et que même il y aura peut-être des violences comme il y avait il y a 10 ans passés. Mais aussi, il y a une influence qui a affecté l'économie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont parties de Nairobi ou qui ont fermé les entreprises pendant cette... Et Kenya a une économie très importante dans ces régions, alors ça a affecté beaucoup de gens. J'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont vraiment, ils veulent vraiment que cette élection en octobre va se passer en suivant les règles et que n'importe qui...
Voilà, Caroline Thompson, voilà, correspondante de la VOA au Kenya. Merci bien. Thank you. Et voilà l'heure maintenant d'accueillir nos invités de notre studio à Washington, Pierre Tantchou, chargé de programme au National Endowment for Democracy, une fondation américaine dont l'objectif est le renforcement des institutions démocratiques à travers le monde. Avec moi sur ce plateau ici à New York, Jean-Médard Munzika, un opposant du Congo-Brazzaville basé aux États-Unis, membre de la plateforme nord-américaine de l'opposition congolaise. Et de notre studio à Paris, Pierre Jacquemot, chercheur associé à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Pierre Jacquemot, qui a également servi comme ambassadeur de France au Kenya, au Ghana et en RD Congo. Voilà, Pierre Jacquemot, je me tourne d'emblée vers vous. Le Kenya, c'est donc un pays que vous connaissez bien, évidemment. Ces juges de Nairobi vous ont-ils surpris?
Oui, je pense qu'ils nous ont, ils m'ont surpris comme ils ont surpris beaucoup d'Africains, tout comme ils ont surpris probablement les observateurs qui étaient en charge de la supervision du processus électoral. Incontestablement, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une décision historique pour la démocratie, parce qu'il n'est pas fréquent que l'instance supérieure de la Constitution invalide un processus électoral dans tous les pays du monde. Historique, évidemment, pour l'Afrique, c'est un cas unique, inédit, sans précédent, et qui peut avoir des répercussions, bien évidemment, sur d'autres pays africains, en particulier là où la démocratie électorale ne fonctionne pas. Je ne voudrais pas citer de pays, mais ouais, on pourrait éventuellement le faire tout à l'heure. C'est une mise en cause d'un modèle de pouvoir au Kenya, en particulier celui de la famille Kenyatta, qui est au pouvoir pratiquement depuis l'indépendance, même s'il y a eu un petit peu d'alternance. Et c'est une gifle pour certains milieux économiques et politiques de ce pays de se voir ainsi remis en cause. Et puis enfin, vous l'avez dit, ça pose un certain nombre de problèmes sur la surveillance du dispositif électoral, puisqu'on n'est pas en mesure de pouvoir contrôler le bon assainissement.
Pierre Jacquemot, on va revenir sur ces aspects tout à l'heure, mais parlons de ce qui fait polémique. C'est le système d'identification biométrique de l'entreprise française Safran et ses serveurs, lesquels permettaient la transmission des résultats qui sont au cœur des plaintes de l'opposition. Est-il vraiment raisonnable de rejouer totalement cette élection ou aurait-il été plus judicieux de recompter les voix?
Écoutez, on n'a pas tous les détails puisque la Cour suprême n'a pas rendu toutes ses conclusions. Ce système informatique qui avait été présenté comme étant novateur, parfaitement pertinent. Bon, vous vous rappelez quand même qu'il y a eu un grave assassinat d'un des membres de la commission électorale qui était précisément en charge du système informatique, et certains laissent entendre qu'il y a pu avoir du piratage par l'utilisation des clés dont disposait cet éminent membre de la commission électorale.
Alors, voilà. Même pour le moment, on ne sait pas s'il y a eu une enquête véritable. qui a fait la lumière sur tout ça. Mais si vous me permettez, je m'excuse évidemment d'insister sur ce point. La commission électorale, même si elle admet certaines défaillances ce jeudi même, affirme qu'elle ne sait pas exactement ce qui lui est reproché et à quel changement il faudra procéder. Ce système d'identification biométrique et les serveurs en question seront-ils réutilisés? Le décompte des voix se fera-t-il uniquement via les bulletins papier, contrairement au 8 août? Qui va vraiment trancher sur ces questions? Alors, vous l'avez dit, est-ce que c'est la Cour suprême quand elle fera part de l'intégralité de son jugement? Brièvement.
Oui, bah écoutez, je pense que dans la confusion qui règne actuellement, la Cour suprême garde les attributions supérieures de par la Constitution, et donc il lui appartient d'aller jusqu'au bout de sa logique, ayant invalidé les élections, il lui appartient de proposer des remèdes. Alors est-ce qu'on va vers un double système papier et un système informatique? C'est pas exclu, hein. C'est pas exclu pour éviter les irrégularités qui ont été constatées. Ceci étant, il faut quand même remarquer que la différence des votes était quand même très importante entre les deux. La différence des résultats entre les deux candidats, l'un a fait 54%, l'autre 44%, il y a près d'un million, 1 400 000 voix de différence. C'est quand même important, cette différence. Alors, même s'il y a eu du tripatouillage, des manipulations, il n'en demeure pas moins que certains, en tout cas c'est le cas des observateurs, ils peuvent dire, bon certes, il y a peut-être eu des erreurs, mais peut-être pas de cette ampleur. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on est condamné à préconiser en quelque sorte qu'il y ait un double système parallèle, papier, numérique, un croisement des informations, sous le contrôle d'un certain nombre d'acteurs de la société civile, peut-être plus que d'observateurs internationaux, dont le dispositif n'a pas été très pertinent, n'a pas été très efficace. Ouais.
Mais on va voir si la Cour suprême, évidemment, va le dire quand elle va rendre l'intégralité de son jugement, quand elle va l'annoncer. En tout cas, le président Kenyatta n'a pas mâché ses mots à l'égard de ses juges. Il les a traités d'escrocs. Ce qui apporte de l'eau à son moulin, en fait, c'est que la présidentielle du 8 août a été qualifiée d'équitable et de crédible par pratiquement tous les observateurs étrangers, notamment de l'Union européenne, du Commonwealth, de la Commission Carter et de l'Union africaine. Pierre Tantiou, ces observateurs ont-ils perdu en crédibilité après ce jugement, d'après vous?
Bon, oui, ce serait mentir que de dire que les missions d'observation n'ont pas été touchées, n'ont pas été mises en cause après ce genre de renversement. Mais je tiendrais quand même à dire en premier lieu que la Cour kényane n'a pas en fait donné toute son opinion, n'a pas donné son opinion totale. Elle a annulé les élections en citant justement des irrégularités, mais n'a pas vraiment porté très précisément sur ces irrégularités. La situation est toujours très fluide sur le terrain. Et je dirais donc, revenant à votre question, en touchant sur les missions d'observation, les observateurs justement avaient vu certains problèmes avec les machines notamment, mais c'était pas à l'ampleur que nous avions vu dans d'autres élections qui ont été aussi très crédibles, comme celle du Nigeria, qui ont été aussi historiques. Je dirais donc les observations, les missions d'observation ont toujours cette importance, il faut le dire, parce que elles ne sont pas seulement là pour regarder les élections le jour même, mais c'est aussi apporter une crédibilité et renforcer la validité des élections, forcer, donner une certaine confiance aux électeurs que leurs voix vont compter. Donc je dirais que oui, ceci peut être un revers pour les missions d'observation, mais elles ont quand même joué un rôle assez important en donnant une certaine validité, en donnant la capacité aux Kenyans d'avoir confiance aux résultats.
Et même d'ailleurs, pour certains dirigeants européens, on a vu par exemple le président français qui a été l'un des premiers à féliciter Kenyatta, n'est-ce pas, Jean-Médard Mounzika. Dites-nous, la Cour suprême kenyane a-t-elle donné une leçon à l'Afrique et au monde quelque part? Ce modèle d'indépendance et d'impartialité est-il possible ailleurs en Afrique, comme par exemple chez vous, dans votre pays, le Congo-Brazzaville?
Ah oui, je dirais d'abord des félicitations à la Cour suprême kenyane, parce que elle a tranché, elle a agi dans l'impartialité. Mmh. Elle a découvert des irrégularités qu'elle a dénoncées, et puis jusqu'à annuler les élections présidentielles. Mais par contre, ce qui se passe chez moi, d'où je suis d'origine, du Congo-Brazzaville, c'est totalement parallèle. La Cour suprême n'est pas partielle. Excusez-moi, n'est pas impartiale, n'est pas indépendante. La Cour suprême est là sous la botte du régime en place en ce moment. Parce que, imaginez-vous, il y a eu des élections passées au Congo-Brazzaville où le leader de l'opposition avait normalement gagné l'élection, mais il y a eu un blackout et le ministère de l'Intérieur a proclamé un blackout, coupure de l'Internet et tout, pendant 3 jours. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui se passait, manigance des résultats. Et jusqu'à ce que maintenant que je vous parle. Maintenant que je vous parle, le gagnant est en prison.
Je suis sûr que les dirigeants congolais vous diront le contraire. Bon, ils trouveront des explications pour tout cela. Alors, je vous propose maintenant 2 commentaires à Facebook. Mahmad Azaimi, Djamena Tchad. La Cour suprême kenyane nous a montré sa maturité. Et Simorien Karamwe, RD Congo. Ces juges kenyans doivent être honorés par les Nations Unies. Pierre Tantchou, le Kenya, c'est aussi un pays qui a connu des affrontements ethniques peu après les élections de 2007. Le jugement de la Cour suprême réclamant une toute nouvelle présidentielle comporte-t-il également des dangers pour ce pays, première économie d'Afrique de l'Est, le danger d'une guerre civile par exemple, que nous ne voulons pas bien évidemment, hein?
Oui, bien sûr, personne ne veut une guerre civile, mais je dirais justement que vous avez parlé des affrontements en 2007, des violences de 2007, et sur le terrain, personne ne veut que ces affrontements et que ces événements se reproduisent. Donc la décision de la Cour suprême a en fait, je dirais, galvanisé et été une forme d'unité pour les Kenyans qui, même ceux qui supportent Kenyatta, quand même ont montré une certaine réjouissance du fait que le système marche, la justice kenyane marche, et je dirais plutôt que cette décision a été un facteur d'union plutôt qu'un facteur de division.
Voilà, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum se poursuit dans quelques petits instants, le temps d'une petite pause.
En plus de nos programmes sur FM en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite.
Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum, consacré ce jeudi à la décision de la Cour suprême kenyane d'annuler la réélection d'Uhuru Kenyatta pour irrégularité. C'est une première sur le continent. Jamais en Afrique, la plus haute juridiction d'un pays n'avait désavoué la reconduction d'un président sortant. Les Africains ne cessent de réagir à ce verdict, comme nous allons le voir dans ce micro-trottoir réalisé à Libreville, au Gabon.
Je pense que c'est une très bonne chose, parce que je dois dire que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé chez nous ici en Afrique. Et pour une première, je crois que ça pourrait faire avancer les choses dans le continent.
Déjà, c'est une grande première en Afrique, donc c'est une bonne chose. C'est la preuve même que la démocratie est en marche en Afrique. Donc, moi personnellement, je peux être satisfait.
L'Afrique commence à se réveiller par certaines choses. Ce qui se passe au Kenya, vraiment, c'est quelque chose d'apprécié énormément. Pourquoi ? Parce que la Cour, bon, les pouvoirs normalement sont normalement divisés. Si ces pouvoirs sont indépendants, normalement, je pense que
La Cour suprême a très bien fait son jeu.
L'annulation des élections au Kenya est une avancée démocratique pour cette zone de l'Afrique. Il faut dire que la démocratie a une véritable avancée dans les pays dits anglo-saxons en Afrique. Mais ce n'est pas le cas encore dans les pays francophones qui restent encore sur le joug du pays colonisateur.
Je peux dire pour l'Afrique, c'est une bonne chose car c'est la première fois qu'un truc comme ça se passe, qu'on a eu des élections dans un pays. Mais je pense que si les autres l'ont fait, d'autres aussi peuvent. Si le Kenya a pu, ça veut dire les hommes du Kenya ont pu le faire, ça veut dire les hommes d'autres pays peuvent aussi le faire.
Voilà, des habitants de Libreville, et nous retrouvons nos invités de Paris, Pierre Jacquemot, chercheur associé à l'IRIS, Pierre Jacquemot, également ancien ambassadeur de France au Kenya, au Ghana et en RD Congo. De notre studio dans la capitale américaine, Pierre Tantchou, du National Endowment for Democracy, la fondation nationale pour la démocratie basée à Washington. Et avec moi, sur ce plateau à New York, Jean-Médard Munzika, coordonnateur du cercle de réflexion et d'action pour la démocratie intégrale au Congo-Brazzaville. Jean-Médard, justement, beaucoup d'opposants en Afrique souvent accusent les organes judiciaires d'être inféodés au pouvoir. D'après vous, quelles seront les retombées de ce verdict sur l'échiquier africain ?
Sur l'échiquier africain, je crois que les retombées seront positives parce que ça va réveiller un peu les consciences de la justice subsaharienne, surtout dans l'Afrique. Nous croyons que ça va donner une avancée dans certains pays, par exemple dans le bassin du Congo, là où la justice est sous les bottes des régimes. Je peux citer au Gabon, par exemple. Vous voyez, la présidente de la Constitution au Gabon, c'est la belle-mère au président. Donc, voyez-vous qu'est-ce qu'elle peut dire au verdict. Et puis, au Congo-Brazzaville aussi, où les juges sont en train de travailler pour le régime en place. Donc, les retombées seront positives parce que ça va interpeller les consciences, ce que je veux dire.
D'accord. Le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a applaudi ce jugement. Mais à Conakry, l'opposition réclame la tenue d'élections locales, en fait, depuis 2 ans, hein, si je ne m'abuse. Donc, élections maintes fois reportées. Et vous savez, il y a ce grand pays qui est la RD Congo. Personne ne sait non plus quand aura lieu cette fameuse présidentielle. Pierre Tantchou, la question que j'aurais aimé vous poser, est-ce là la preuve de l'hypocrisie des dirigeants africains quand il s'agit d'organiser et de respecter les opérations de vote dans leur pays ?
L'hypocrisie, oui, tout à fait. Je pense que c'est le mot à choisir parce que justement, nous voyons Alpha Condé qui, lui, justement, dans son pays, oppresse l'opposition, mais qui dirait que voilà, c'est une bonne décision qui est en train une bonne situation qui est en train de se développer au Kenya. Mais je citerai aussi, par exemple, Kagame, président Kagame, qui, à peu près 1 ou 2 ans, quand le président burundais était en train de violer la constitution burundaise, il disait justement que le président burundais doit respecter la pression de sa population, alors que nous savons que le régime rwandais est l'un des plus durs de l'Afrique. Mais je dirais plutôt que nous voyons beaucoup plus un sentiment de solidarité les présidents africains. Vous avez parlé justement à Alpha Condé, il est à la tête de l'Union africaine en ce moment, et c'est par cette institution que généralement il se soude, il reste soudé, et la plupart du temps ils essaient de se garder chacun à la tête de leur pays. Mais l'hypocrisie, en effet, de ce qu'Alpha Condé a dit, elle est très très évidente.
Voilà, hypocrisie. Pierre Jacquemot, croyez-vous que ce cas d'école kényan peut vraiment se reproduire ailleurs en Afrique ? Par exemple, cela peut-il arriver au Burundi, au Gabon, en Ouganda, au Zimbabwe, même, comme vient de le dire Pierre Tantchou, au Rwanda, où l'unique parti d'opposition toléré par le pouvoir de Paul Kagame a mis en doute l'impartialité du système judiciaire ?
Bah écoutez, je voudrais dire 2 choses. D'abord, les avancées démocratiques dont on parle, on en retrouve dans d'autres régions de l'Afrique. Et je ne crois pas au clivage francophone-anglophone, puisque du côté francophone, le Bénin ou le Sénégal ont respecté les règles de l'alternance récemment, tout comme le Ghana ou la Gambie ou le Nigeria. Donc on est plutôt sur un clivage ouest-est, si on veut faire un peu simple. En ce qui concerne l'avancée démocratique représentée par cette décision inédite et historique de la Cour suprême, il faut qu'elle soit transformée. Il faut que les élections aient lieu et que les résultats des élections soient acceptés par les deux candidats. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du processus, on ne peut pas mesurer exactement l'avancée. Pourquoi ? Parce que les risques, actuellement, aujourd'hui, les risques de déflagration ne sont pas nuls. Aucun des deux candidats n'accepte l'un la Cour suprême, traité d'escroc, l'autre la commission électorale, dont les membres sont traités de hyènes. Et donc, pour l'instant, les règles du jeu pour mettre en place, dans un délai très très court, hein, de quelques semaines, une nouvelle élection ne permettent pas d'avoir des garanties sur le résultat final, c'est-à-dire le résultat de la démocratie, c'est d'accepter d'être perdant et d'accepter, pour le gagnant, de respecter l'opposant et de lui donner une place dans le dispositif démocratique. Donc on est loin d'avoir enregistré une avancée tant qu'on n'a pas les résultats définitifs de cette élection dans les prochaines semaines ou peut-être dans les prochains mois. C'est très important parce que tout ceci, il faut savoir qu'au Kenya, on est sur un terreau politique extrêmement fragile. On signale la fortune économique du Kenya, pays le plus dynamique de la sous-région, qui a une influence très importante sur ses pays voisins. Mais cette croissance économique attise un certain nombre de tensions sociales, en particulier parce que cette croissance n'est pas redistribuée. Et au-delà des questions ethniques qu'on évoque souvent, il y a incontestablement, du côté de Raila Odinga, un porte-parole de la population la plus pauvre. Son bastion électoral, c'est Kibera, c'est Matare, c'est la ville de Kisumu. Et on n'est pas à l'abri devant des débordements. Et si c'était le cas, ce ne serait peut-être pas une
transformation de cette avancée démocratique. On verra effectivement dans peut-être à peu près deux mois, hein, si l'élection a lieu, la portée de ce jugement, en fait. On verra. Je vous propose deux autres commentaires Facebook à présent. Mamadou Alpha Baldé, Conakry, Guinée. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Dixit, Barack Obama et Hassan Omar, Aboulale, Gash, Djibouti, le Kenya est un exemple, mais le chemin est lent. La communauté internationale doit accompagner les justices africaines et les sociétés civiles dans la quête d'une démocratie réelle et durable. Vous êtes d'accord avec cela, Jean Médard, mais justement, je vais vous demander, êtes-vous d'avis qu'une telle indépendance de la justice, comme nous venons de le voir au Kenya, un rôle capital justement joué dans le processus démocratique dans les pays africains, à même de pouvoir éviter des manifestations de rue qui trop souvent aboutissent à des affrontements meurtriers?
Je suis totalement d'accord. Oui. Et puis je joins aussi ce que nos amis du Facebook, nos commentaires de Facebook, parce que normalement, nous avons besoin des institutions fortes. La justice doit être au-dessus du législatif et de gouvernements qui sont en train de gérer les pays africains. Donc c'est pour dire que nous devons insister sur la justice. La justice doit être au-dessus de tout le monde.
Effectivement. Alors, très rapidement, Pierre Tantou, nous avons vu les critiques à l'encontre des observateurs électoraux et la commission électorale du Kenya. Ce jugement remet-il en question pour la énième fois la surveillance des élections en Afrique, en deux mots malheureusement?
Non, je dirais plutôt qu'il faut qu'on se rappelle qu'il y a une raison pour laquelle certains régimes africains ne veulent pas de l'observation, surtout internationale, des élections. L'observation, les missions d'observation rendent difficiles les actes des actes de tricherie dans les élections, comme l'intimidation des voteurs ou alors le trucage des bulletins de vote. Donc je dirais que l'élection électorale a toujours son rôle à jouer et je pense, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le fait que ça donne une certaine...
Bien entendu, c'est une discussion qui doit se poursuivre manifestement. Hein. Malheureusement, le temps fait défaut. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités. Merci également à toute l'équipe à Washington et à New York. Et merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide dans votre compagnie. À très bientôt. Take care.